Mercredi 10 juin,
l'info sur RMC.
Il est 7h01 et Céline Kallmann est là pour les dernières informations. Céline, bonjour.
Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Fin de l'état d'urgence sanitaire dans un mois. Nouveau projet de loi présenté ce matin au Conseil des ministres, mais plusieurs mesures pourraient être prolongées. Explication dès le début de ce journal. Les services de l'État ont-ils failli au début de la crise? Une vaste enquête préliminaire est ouverte après le dépôt d'une quarantaine de plaintes. Les funérailles de George Floyd aux États-Unis ont résonné en France. Des milliers de personnes réunies hier soir contre le racisme et les violences policières. Bienvenue à tous sur RMC. 10 juillet, notez cette date, le gouvernement souhaite mettre fin à l'état d'urgence sanitaire, un mois supplémentaire donc pour être certain de la baisse de l'épidémie de Covid-19. Aujourd'hui, moins de 1000 personnes se trouvent en réanimation dans notre pays. Le projet de loi va être présenté ce matin au Conseil des ministres. Marie Monnier.
C'est l'évolution positive de la situation sanitaire qui a motivé Matignon à faire cette annonce. Le nombre de cas graves de Covid-19 est de nouveau repassé sous la barre des 1000 hier. L'état d'urgence sanitaire doit rester un régime d'exception, insiste-t-on à Matignon. Pour autant, cette sortie de l'état d'urgence doit se faire progressivement et rigoureusement. Un projet de loi est d'ailleurs présenté en ce sens en Conseil des ministres aujourd'hui. Dès le 10 juillet et pour 4 mois, si la situation sanitaire s'aggrave de nouveau, le gouvernement se réserve la possibilité de réglementer ou interdire de nouveau les déplacements sur le territoire, ordonner la fermeture provisoire des établissements accueillant du public ou encore limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique. En revanche, selon l'entourage du Premier ministre, ces mesures n'autoriseront pas le retour à un confinement strict comme au pic de l'épidémie.
Mise en danger de la vie d'autrui, homicide et blessures involontaires, ceux qui ont géré la crise du Covid-19 devront-ils un jour s'expliquer devant la justice? Le parquet de Paris pour une enquête préliminaire. Décision après le dépôt d'une quarantaine de plaintes des particuliers, associations, des syndicats qui reprochent par exemple aux autorités sanitaires leur gestion des masques, des tests. Plusieurs voix réclament que l'enquête soit menée par un juge d'instruction indépendant. Yasmina Ketal est membre du collectif Interurgence et s'apprête à porter plainte.
Nous, on trouve préférable de saisir un juge d'instruction, notamment parce que c'est un organe indépendant qui a un pouvoir d'action plus important que le parquet. Ce qu'on veut, c'est que pour quelque chose d'aussi important qu'a été la crise Covid, notamment pour les soignants, avec les contaminations, les décès, la peur qui a régné, qu'on puisse donner tous les moyens, de manière large et entière et de manière indépendante, pour pouvoir comprendre en fait ce qui s'est passé.
Eux ne parviennent toujours pas à se relever de la maladie et vous en connaissez peut-être autour de vous des personnes qui ont contracté le virus et qui depuis replongent régulièrement. Perte d'odorat, troubles respiratoires persistants, des mois que cela dure. Une députée veut déposer une proposition de loi la semaine prochaine pour reconnaître les symptômes de longue durée des malades Covid. Juliette Pietraszewski et Nicolas Trénaud.
Radio, scanner, prise de sang, Barbara enchaîne les examens depuis plusieurs semaines, mais rien ne permet d'expliquer pourquoi des symptômes persistent depuis sa contamination au coronavirus il y a 2 mois.
C'est vraiment invalidant au quotidien de se sentir comme une mamie et d'avoir des douleurs et des oppressions thoraciques et d'avoir du mal à respirer. Moi, je ne suis pas du tout quelqu'un d'hypochondriaque ni qui s'écoute. Et j'aimerais bien pouvoir reprendre juste ma vie, pouvoir travailler.
Plusieurs patients sont dans le même cas que Barbara, observe l'infectiologue Dominique Salmon-Séron, qui lance 2 études sur ses symptômes post-Covid.
Les gens se plaignent essentiellement d'oppression thoracique, de tachycardie. D'autres se plaignent de picotements, de brûlures. Donc ça ne peut pas être psychosomatique parce que leurs plaintes sont très similaires.
Face à ce phénomène, qui la concerne également depuis le mois de mars, la députée Les Républicains des Alpes-Maritimes, Laurence Trastour-Isnard, veut proposer une loi pour reconnaître et prendre en charge ses patients.
Rien que moi, la semaine dernière, j'en ai eu pour 75 euros de produits non remboursés. Il faudrait qu'il y ait une liste de médicaments qui puissent être pris en charge, même si d'habitude, ce sont des médicaments qui ne sont pas pris en charge.
Mais selon certains scientifiques, il est encore trop tôt pour reconnaître le coronavirus comme une affection de longue durée.
La réouverture totale des restaurants en zone orange va-t-elle s'accélérer? Seules les terrasses sont accessibles pour le moment. Hier soir, Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État en charge du tourisme, a laissé entendre que la réouverture pourrait se faire avant le 22 juin. Et si l'épidémie de coronavirus était apparue plus tôt qu'on ne le pense, les recherches internet des symptômes du Covid-19 ont bondi dès le mois d'août en Chine. Plus de monde aussi dans les hôpitaux de la ville. ville de Wuhan dans cette période, résultat d'une étude américaine. RMC, 7h05, nouveau budget de crise présenté à 10h ce matin au Conseil des ministres. C'est la troisième fois qu'il est revu depuis le début de cette période inédite. Les chiffres sont vertigineux. 40 milliards d'euros supplémentaires devraient être intégrés à ce projet de loi. Après un arrêt quasi total des chantiers pendant des semaines, le secteur de BTP a lui aussi besoin d'un soutien renforcé. Des mesures pour pallier aux surcoûts vont être annoncées, mais c'est largement insuffisant pour Jacques Chanu, il est président de la Fédération française du bâtiment.
C'est très très loin de ce que nous pouvons attendre, c'est un pétard mouillé. Ça veut dire quoi une prise en charge des surcoûts? Quel pourcentage? Sur quel type de marché? C'est uniquement aujourd'hui sur les marchés d'État. Les marchés d'État en tant que tels, c'est 3% de notre activité. Très sincèrement, ce gouvernement ne prend pas au sérieux la situation de notre secteur. Donc il va falloir, je crois, qu'on reprenne notre bâton de pèlerin pour l'expliquer au gouvernement, aux députés, aux sénateurs, quelle est la situation que vivent nos artisans et nos entrepreneurs.
Et hier soir, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a déclaré que des centaines de milliers de personnes allaient perdre leur emploi dans les mois à venir en France. Des milliers de personnes contre le racisme et les violences policières hier soir un peu partout, Mulhouse, Colmar, Metz, Bordeaux ou encore Grenoble, des rassemblements qui ont débuté au moment où commençaient les funérailles de George Floyd. À Paris, plus de 2400 personnes étaient présentes selon la préfecture, 5 fois plus selon les organisateurs. Margot Bédé, Mao Bécard-Granier.
Après 8 minutes 46 de silence en hommage à George Floyd, les manifestants genoux à terre se relèvent. Parmi eux, Thiernot, la quarantaine, tient dans sa main droite une pancarte avec écrit « Toutes les vies comptent ».
Il y a une conscience collective qui est en train de naître. On a eu beaucoup de temps pour y arriver. Mais aujourd'hui, on prend notre destin en main, noir, blanc, rouge ou gris. On est tous réunis pour lutter contre le racisme.
Juste à côté, Marie-Claude, retraitée, elle a traversé tout Paris à pied pour être ici.
Il a fallu un déclencheur aux États-Unis pour qu'en France, on bouge un peu et au-delà des personnes concernées, tout le monde est choqué.
À côté d'SOS Racisme, organisateur de la manifestation, il y a Noémie, présidente de l'Union des étudiants juifs de France.
On ne peut accepter qu'aujourd'hui, quelqu'un soit tué parce qu'il est noir ou parce qu'il est de n'importe quelle couleur pour ce qu'il est.
Le plus important pour Mohamed, 42 ans, c'est que ces manifestations anti-racisme perdurent.
Les manifs doivent continuer parce que là, on est dans l'émotion. Est-ce que cette émotion, cette lutte peut apporter quelque chose? Il faut qu'on puisse avoir des résultats.
Des manifestations lancées par le collectif Justice pour Adama sont prévues ce samedi.
Et hier soir, le monde avait les yeux rivés vers Houston, Texas, où George Floyd a été enterré dans la ville où il a grandi. Cérémonie pleine d'émotion pour celui qui est devenu le visage des victimes des violences policières et du racisme. Olivier Chantreau.
Entourée de toute sa famille, Latonya Floyd est submergée par le chagrin. Entre deux sanglots, la sœur de George lui rend un bref hommage.
Mon frère va beaucoup me manquer. Je veux juste lui dire que je l'aime et remercier Dieu pour m'avoir donné mon Superman personnel.
Kathleen, la tante, retient ses larmes avec peine et regrette le départ trop rapide de son neveu.
Je veux dire à toutes les mamans que j'ai entendues aujourd'hui, si vous avez un neveu ou un oncle, prenez-le dans vos bras et aimez-le parce qu'on ne sait jamais quand vient la fin.
Pour l'évêque James Dixon, venu soutenir la famille, le décès de George Floyd marque un tournant planétaire.
Quand George Floyd est tombé, la nation entière et le monde se sont levés. Il est tombé dans la haine, nous nous levons dans l'amour. Il est tombé dans l'injustice, nous nous levons pour la justice. George Floyd est mort dans la discrimination, mais le monde se lève désormais pour l'égalité.
Pendant la cérémonie, le maire de Houston, Sylvester Turner, a officiellement proclamé ce 9 juin 2020 journée George Floyd.
Un ours abattu dans les Pyrénées, l'État va porter plainte, a fait savoir Elisabeth Borne, la ministre de la Transition écologique. L'animal a été découvert en Ariège, tué par balle donc. Football, Lyon ne sera pas européen la saison prochaine. Le Conseil d'État a confirmé l'arrêt à la 28e journée. Toulouse et Amiens sont pour l'instant maintenus en Ligue 1, ce qui ouvre la porte à un championnat à 22. Et c'est là que c'est un vrai bras de fer qui va commencer. Quelles sont désormais les options, Timothée Mémon?
L'ordonnance du juge des référés demande en effet à la Ligue de football professionnel de réexaminer la question du format de la Ligue 1 pour la saison 2020-2021. La LFP n'a d'autre choix que de s'exécuter. Et comme Didier Quilleux, le directeur de la LFP, l'a confirmé sur notre antenne, il réunira son assemblée générale pour lui proposer à nouveau le format d'une Ligue 1 à 22 clubs. Une proposition pour la forme, puisque l'hypothèse avait déjà été évoquée, mais jamais retenue, au directeur de la Ligue d'ajouter que jamais depuis 40 ans, la Ligue 1 n'a excédé 20 clubs. Même si cette disposition passait à la Ligue, la Fédération française de football Football pourrait la retoquer ensuite, comme elle l'a déjà fait pour la Ligue 2. Le passage à une Ligue 1 à 22 clubs reste donc très hypothétique. La LFP devra donc trouver des arguments recevables pour entériner à nouveau les descentes d'Amiens et de Toulouse.
Le Grette à l'Élysée, le président de la Fédération française de football va être reçu par Emmanuel Macron en fin de journée. Il espère que les finales des Coupes de France, de la Ligue, accueilleront des milliers de spectateurs.
20 000 personnes souhaitent Noël Le Grette. Merci. On vous retrouve tout à l'heure, c'est
oui,
à 8h, vous êtes avec nous. Bon, allez, nous allons revenir sur les obsèques de George Floyd, sur le rassemblement qui a eu lieu à Paris, les rassemblements, pas qu'à Paris d'ailleurs, en province, un peu partout, et je reçois, pour parler de racisme, Corinne Narasiguin, qui est secrétaire nationale du Parti Socialiste, secrétaire nationale à la coordination, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Merci. Vous avez écrit une tribune qui a fait beaucoup de bruit, qui est très remarquée. Et vous dites, dans cette tribune, alors vous êtes une jeune femme noire, de quelle origine êtes-vous ?
Je suis réunionnaise.
Réunionnaise, et vous dites, on ne fait pas reculer le racisme en tentant de culpabiliser individuellement et collectivement les Blancs. Explication, Corinne Narasiguin.
C'est cette expression de privilège blanc qu'on entend beaucoup depuis quelque temps en France qui me heurte. Parce que moi, j'ai vécu très longtemps aux États-Unis. Donc, je connais l'histoire américaine et je comprends pourquoi cette expression privilège blanc qui est née aux États-Unis dans la ségrégation raciale. Donc, dans un moment où il y avait un racisme d'État, où effectivement, les Blancs avaient un statut privilégié. Cette histoire-là, je la comprends et je la respecte. Mais on ne peut pas importer cette expression-là en France, sans regarder ce qui est l'histoire du mot privilège en France.
On ne plaque pas l'histoire américaine sur l'histoire française.
Voilà, le mot privilège en France, il est lourd de sens historique. On pense à la Révolution française, c'est l'abolition des privilèges contre un statut de classe, contre l'aristocratie, contre des questions d'inégalité de patrimoine, d'inégalité économique et sociale, et pas du tout d'inégalité raciale. Et donc quand on mélange les deux, eh ben on comprend plus rien et on donne l'impression que la lutte antiraciste, ça serait se battre contre le statut des Blancs. Et ça n'a aucun sens et en plus, c'est dangereux.
Ce n'est pas ça, la lutte contre le racisme. Ce n'est pas se battre contre le statut des Blancs. C'est quoi, la lutte antiraciste ?
La lutte antiraciste, c'est le respect de chaque être humain dans sa dignité, dans la complexité de son identité et en la respectant.
Dans sa différence.
C'est pas du tout la même chose. C'est pas de réduire, justement, les gens à leur couleur de peau en leur disant « Ah bah, toi, t'es noir, t'es nécessairement une victime. Toi, t'es blanc, tu devrais t'en excuser. » Ben non, ça n'est pas ça.
Non, ça n'est pas ça. C'est pas parce qu'on est noir qu'on est nécessairement une victime, et ce n'est pas parce qu'on est blanc qu'on doit s'excuser à tout bout de champ parce qu'on est blanc.
Alors, ça veut pas dire qu'il faut ignorer ce qui est notre histoire et ce qui est la réalité du racisme en France. Au contraire, il faut regarder ces choses-là en face, mais il faut le faire avec notre histoire à nous.
Alors, je regardais, tiens, une information qui est sortie cette nuit, Adidas, qui promet que 30% des nouvelles embauches aux États-Unis seront des personnes noires. C'est très américain.
Oui,
hein.
Très américain.
Est-ce que c'est transposable, ça aussi, chez nous ?
Non, je crois que c'est pas du tout notre culture non plus. Je crois qu'aux États-Unis, il y a une culture de la discrimination positive, ce qu'on appelle la discrimination positive, affirmative action.
Vous n'êtes pas
moi-même,
favorable.
Je sais que ça a aussi des effets pervers, c'est-à-dire que du coup, les Noirs ont aussi cette espèce de chape de plomb, mais qui soit parce qu'on laisse, c'est assez aussi lourd à porter. Moi, j'ai travaillé longtemps dans le privé aux États-Unis. On faisait remplir, cocher des cases. Moi, je suis métisse, je sais pas dans quelle case je rentre, en fait. Je trouve ça étrange. Je pense qu'il faut faire attention à, ça correspond à l'histoire des États-Unis qui a une histoire de communauté.
Vous avez souffert de discrimination? Vous avez souffert de Corinne Narasiguin?
J'ai grandi à l'île de la Réunion. Donc, j'en ai beaucoup moins souffert. Et en plus, je suis j'ai pas un faciès ni nord-africain ni arabe. Et donc, j'ai effectivement beaucoup moins souffert, de la violence d'un racisme systémique. Mais j'ai connu du racisme. J'ai plus souffert systématiquement de sexisme. C'est différent.
Oui, c'est différent. Ouais.
Mais bien sûr, les discriminations, elles existent et elles peuvent exister à des niveaux différents. C'est complexe, le racisme. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps de regarder les choses et d'utiliser les mots justes.
Oui, Corinne Narasiguin, quand vous voyez la transposition de la mort de George Floyd, de l'émotion provoquée par la mort de George Floyd, pardon, jusque à l'affaire Adama Traoré, qu'en pensez-vous ? Vous pensez que la relation doit être faite ?
Oui, je crois qu'il y a il y a des parallèles qui sont inévitables. Maintenant, la question de problème du dossier d'Adrien Traoré, c'est que c'est un dossier qui dure depuis beaucoup trop longtemps et qu'il faut effectivement que la justice aille au bout et qu'on connaisse la vérité.
Et un peu plus vite.
Voilà, et que la justice doit pouvoir être rendue. Donc ça c'est le problème. George Floyd, on a vu, c'était filmé, c'est ça qui crée l'émotion, c'est ça qui fait que c'est un mouvement planétaire aujourd'hui, c'est que c'est impossible de nier ce qui s'est passé.
Vous étiez hier à la manifestation, vous avez mis un genou à terre.
Oui, absolument.
Oui, sans hésiter une seconde.
Non, sans hésiter.
Parce que certains disent c'est une soumission de l'homme blanc, c'est une soumission à l'homme noir. C'est ce que disent certains les plus extrémistes. On est bien d'accord, mais.
Mais je crois que c'est là où quand on commence à importer des concepts de politique identitaire, de politique des minorités qui viennent essentiellement du monde anglo-saxon et du monde américain en particulier, et qui ne correspondent pas à notre histoire française, il y a des incompréhensions et il y a des manipulations. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Quasiment toute la place de la République, c'était la diversité de la France. Et tout le monde a posé un genou parce que c'était un geste de solidarité avec tous ceux qui se battent contre le racisme, et tous ceux qui se battent contre le racisme en République, ça devrait être tout le monde.
Se battre contre le racisme, ce n'est pas se battre contre les Blancs. C'est ce que vous voulez dire.
Oui, c'est tous ensemble que chacun doit s'approprier ce combat-là. Chacun a sa place dans ce combat-là. Ça nous concerne tous parce que c'est une question fondamentale de droits humains, de respect de ce que nous sommes en tant qu'êtres humains.
Mathieu ?
La question aussi, parce que vous parliez de soumission... Oui. On voit Adidas, on voit les obsèques de George Floyd. Certains disent digne d'un chef d'État. Est-ce qu'il n'y a pas une surenchère qui finalement va venir desservir la cause? Est-ce qu'on n'en fait pas trop?
On n'en fait jamais trop quand il s'agit d'un problème qui est un problème systémique, qui est un problème très ancien. Oui. Et où on a beaucoup trop souffert justement du déni, de l'indifférence, on détourne le regard, on fait semblant de pas voir que ça existe, on dit que c'est juste le cas de le comportement de quelques personnes isolées, alors qu'en réalité il y a des problèmes systémiques, il y a des biais, il y a des procédures qui sont en place, il y a des habitudes qui font que il y a des personnes qui souffrent effectivement de discrimination systématiquement dans leur vie, à l'école dans leur parcours scolaire, et puis pour l'accès au logement, et puis pour l'accès au travail. Et donc ça, il faut, le plus on en parle, le mieux c'est. Mais il faut en parler avec les mots justes, avec les bonnes références historiques qui sont les nôtres, celles de notre histoire à nous. Elle est suffisamment complexe et suffisamment lourde, on n'a pas besoin d'importer des traumatismes.
Et puis on va rappeler quand même des populations noires que dans les pays d'Afrique, ce sont les noirs qui exploitent les noirs souvent aussi, hein.
Mais il y a des
les racismes sont multiples.
Alors il y a des inégalités économiques et sociales partout.
Racisme ethnique, les racismes. Eh oui.
Il y a malheureusement le racisme est largement partagé à travers l'humanité. Oui.
Eh oui. Merci beaucoup Corinne Narasigan. Merci d'être venue nous voir. Petit instant de réflexion, ça vous fait réagir. J'en suis absolument certain. Alors attendez, Bernard réagit. Il est dans le Loiret. Bonjour Bernard.
Bonjour Jean-Jacques.
Qu'est-ce que vous vouliez dire à Corinne Narasigan?
Justement, je comprends tout ce qu'elle a dit à l'antenne. Hein.
Oui.
Je comprends sa situation, mais j'ai l'impression qu'elle ignore beaucoup de choses que les Noirs vivent en France.
C'est-à-dire?
Pour le privilège blanc, dire que le privilège blanc n'existe pas, peut-être officiellement il n'existe pas, mais pratiquement sur le terrain, il existe bien. Moi, je reprends l'exemple de ma fille qui est en recherche de stage pour faire l'alternance.
Oui.
Donc, elle lance le dossier, elle est appelée par l'entreprise pour passer l'entretien. Comme elle parle bien français, le nom est franchisé, on se rend pas compte, on se doute pas que c'est une noire. Et le jour où elle se présente à l'entretien, on lui dit « Ah non, finalement, il n'y a plus de place, donc vous pouvez repartir.
Voilà. »
Ma fille fait intervenir sa copine qui est blanche, qui envoie le même dossier dans la même entreprise, elle est prise.
Corinne Narasigan, c'est une remarque, Bernard. Tous les jours, des personnes noires vivent ça.
Absolument, c'est une réalité. Il a absolument raison de le dénoncer, de s'en indigner. Mais ce que je dis, moi, c'est que ne pas être victime de discrimination, ça n'est pas un privilège. C'est la normalité de la République. Le problème, c'est que la République ne garantit pas cette normalité pour tout le monde parce qu'il y a des discriminations.
La discrimination positive, ça a du bien aussi.
Non, Non, je crois qu'il faut pas passer par les quotas, bon. Mais il faut qu'il y ait une prise de conscience pour que justement il y ait un effort qui soit fait pour que la diversité complète de la France soit on la retrouve notamment dans les entreprises, qui est des sanctions systématiques et qui est justement oui. Ce débat permanent sur l'existence de cette discrimination.
Je remercie Bernard de nous avoir appelé. Merci beaucoup Bernard. Il est 7h21. Merci Corinne Narasiguin. 7h21. Je reparlerai de ces questions avec Ségolène Royal, qui est mon invitée tout à l'heure, de 8h35 à 9h.
C'est l'heure de Marie Dupin. Oui. Dans un instant, on peut de nouveau célébrer des mariages depuis quelques jours en France, mais sous certaines conditions, on va tout savoir. Dupin quotidien dans un instant sur RMC.
RMC.
Dupin quotidien. Avec Marie Dupin, c'est l'heure des mariages. C'est l'heure du mariage. Mais non, mais c'est l'époque.
Canon.
C'est
l'époque. Le canon en ré majeur.
Oui, bravo. Bravo, non, mais c'est vrai. Les mariages reprennent timidement.
Timidement
et dans des conditions très strictes. Combien d'invités peut-on recevoir?
Bah d'abord, il faut dire ce qui est. Beaucoup de futurs mariés ont tout simplement annulé la cérémonie. Oui. Hein, je casse un peu l'ambiance. Enfin, annulé, reporté la cérémonie. Oui. Les traiteurs ont un agenda bien rempli peut-être. Pour l'année prochaine. Peut-être certains vont changer d'avis. Oui. En tout cas, ceux qui ont décidé de maintenir la date du mariage...
Vous témoignez 32-16. Hein.
Ceux qui ont décidé de maintenir la date peuvent se marier donc depuis le 2 juin, même en zone orange. Et en ce qui concerne le nombre de personnes autorisées à la cérémonie, il est déterminé en fonction de quoi? Eh bien, en fonction de la taille de la salle des mariages. Donc, si vous avez une grande salle des mariages dans votre mairie, bah, vous pouvez peut-être avoir un nombre assez conséquent d'invités. Puis, bah, s'il y a une petite salle des mariages, tant pis pour vous. Le mieux, c'est de voir directement avec la mairie ce qui vous est proposé.
Et les lieux de culte?
Là aussi, une distance d'un mètre doit être respectée entre les participants, avec port du masque obligatoire, gel hydroalcoolique, et surtout il faut éviter les rassemblements à la sortie des édifices religieux, parce que même si vous avez une dérogation pour être plus de 10 à la mairie, et si vous êtes 50 à l'église, il faut se disperser très vite.
Masque aussi pour les mariés et un mètre de distance.
Voilà, et puis il faut toujours éviter interdit d'être à plus de 10 dans l'espace public.
La mariée sur son masque.
Je pense que les mariés peuvent s'embrasser quand
sur
même.
Sur son masque. Ah bon, d'accord. Et après la fête. Comment ça se passe?
Alors, en zone verte, hein, vous savez, les restaurants, les salles polyvalentes ont le droit d'accueillir des rassemblements de plus de 10 personnes. En zone orange, c'est en terrasse. Mais dans tous les cas, il faut un siège vide entre chaque invité. Oui. Il ne faut pas plus de 10 personnes à table, pas plus de 10 personnes sur la piste de danse.
Oui, personne.
Donc, il faut attendre pour danser.
Il faut personne.
Et, par contre, si vous vous mariez dans un lieu privé, il n'y a pas de règles.
Bon.
Ce qui n'empêche pas de respecter la distanciation physique.
D'accord, d'accord. Pas plus de 5000 personnes, non, c'est pas...
Voilà, non, d'accord. C'est ça.
Il est 7h27. Je prendrai Frédéric tout à l'heure. J'ai pas le temps, malheureusement. Frédéric, il veut se marier. Il est fiancé, mais sa fiancée est cambodgienne. Alors, c'est pas pratique, parce qu'il faut qu'il aille au Cambodge. Et là, en ce moment,
c'est un peu compliqué.
Pas sûr que ce soit possible. C'est même pas possible. Merci, Marie. Frédéric. Charles Mania.
Enchanté.
Les réseaux sociaux. Charles.
Hashtag Mania.
Alors, une info qui fait réagir. Peut-être qu'Amiens et Toulouse joueront en Ligue 1 la saison prochaine. Une Ligue 1 à 22 clubs. Toutes les demandes d'Olympique Lyonnais, en revanche, ont été annulées, rejetées par le Conseil d'État.
Et c'est l'ironie de l'histoire aux yeux de beaucoup d'internautes. Les 15 communiqués, les 50 tweets de Jean-Michel Aulas n'auront servi peut-être qu'à maintenir Toulouse et Amiens en Ligue 1. Un sacré retour de karma, écrit un internaute. Attention, il peut encore tenter de porter le dossier à l'ONU, estime un autre. Et puis, beaucoup d'internautes commentent cet éventuel maintien quasi miraculeux pour Toulouse, qui ne comptait que 3 victoires quand la saison s'est arrêtée. Selon certains, le pangolin sera bientôt la nouvelle mascotte code du TFC. L'avocat du club aura donc été le meilleur joueur de la saison toulousaine, dit un internaute. Et puis, avec une possible Ligue 1 à 22 clubs, selon un internaute, tout ce qui va changer pour Toulouse, c'est qu'ils finiront 22e au lieu de 20e l'année prochaine. Quant à Amiens, qui pourrait donc aussi se maintenir, les plus complotistes y voient la main d'Emmanuel Macron, qui, après avoir permis à son club de cœur, l'OM, de se qualifier en Ligue des Champions, permettrait au club de sa ville natale, Amiens, de rester dans l'élite. En réalité, comme nous l'expliquait Jeannot Rességuier ce matin, Toulouse et Amiens sont très loin d'avoir sauver leur place en Ligue 1, car la nouvelle convention qui doit être signée entre la Fédé et la Ligue prévoit un championnat à 20 clubs maximum.
Le réseau social TikTok est en passe de détrôner YouTube dans le cœur des plus jeunes.
Oui, les enfants et adolescents passent désormais quasiment autant de temps chaque jour sur TikTok que sur YouTube. Sondage réalisé auprès de 60 000 enfants et adolescents, les 4-15 ans dans 3 pays, États-Unis, Espagne, Royaume-Uni. Dans le détail, on apprend qu'ils passent en moyenne 1h20 par jour sur TikTok contre 1h25 sur YouTube, et les courbes devraient bientôt se croiser. croisée. Alors attention, derrière ces infos, il y a une lutte d'influence parce que TikTok est un réseau social chinois et ça n'a rien d'anodin de voir les jeunes passer de l'américain YouTube au chinois TikTok. Les autorités américaines accusent régulièrement le réseau chinois de collecter des infos au profit de Pékin. Bref, derrière cette course au clic et au like, c'est une véritable lutte d'influence qui se joue.
Bien, on a beaucoup parlé, Nicolas Poincaré, bonjour.
Bonjour Jean-Jacques.
On a beaucoup parlé, et on parle beaucoup d'Adama Traoré, de la famille d'Adama Traoré, notamment sa sœur, Assa Traoré. Alors, la famille Traoré est une famille nombreuse. De nombreux membres ont été condamnés par la justice ou sont en procédure judiciaire ou même parfois en prison ou ont été en prison. Vous ferez le point tout à l'heure.
Voilà, on va faire le point en précisant que ça changerait au fond du dossier. Hein. Bah, donc, évidemment. Question sans réponse que l'on a toujours sur la mort d'Adama Traoré. Mais effectivement, les casiers judiciaires de au moins quatre de ses frères sont assez épais. Il y a des violences, des trafics de drogue, des expéditions punitives, des incendies volontaires. Adama Traoré, lui-même, au moment où il est mort, sortait de prison et faisait l'objet d'accusations assez graves.
Tout savoir tout à l'heure à 8h10 sur l'antenne d'RMC avec Nicolas Poincaré. Il est presque 7h31.
Mais justement, une garde des Sceaux qui propose à la famille Traoré de les recevoir après avoir été incité par le président de la République à se pencher sur le dossier. C'est de la démagogie, c'est une ingérence du politique, dit Béatrice Brugère du syndicat Unité Magistrats FO. Elle est avec nous juste après le journal de 7h30 sur RMC.
Il est 7h31. Merci d'être avec nous. Anne-Sophie Balbir est là pour les dernières informations. Anne-Sophie, bonjour.
Bonjour Jean-Jacques. Bonjour à tous. Les obsèques de George Floyd transformées en tribune politique. Le pasteur Al Sharpton a accusé Donald Trump d'être malfaisant. Le président américain n'a pas eu un mot pour le défunt hier. Le 22 juin ou avant, les restaurateurs pourraient rouvrir plus tôt que prévu en Île-de-France. Petite phrase du secrétaire d'État chargé du tourisme hier soir. Et puis le Conseil d'État confirme l'arrêt de la saison de Ligue 1. Les relégations d'Amiens et de Toulouse sont suspendues. La Ligue et la Fédération française de foot doivent statuer avant le 30 juin. RMC 7h32. Le point final de plusieurs jours d'hommage à George Floyd. Ses obsèques avaient lieu hier au Texas, dans une église de Houston, la ville où il a grandi. Cérémonie retransmise en direct. Il y a eu des chants gospel, l'émotion des proches et aussi des discours aux accents très politiques avec un homme dans le viseur, Donald Trump, Martin Bourdin.
Soutenu par un membre de la famille sur scène, au bord des larmes, pleine de rage, Brooke, la nièce de George Floyd, est la première à s'aventurer sur le terrain politique.
Quelqu'un a dit rendre à l'Amérique sa grandeur, mais quand est-ce que l'Amérique a été grande? Pourquoi le système doit-il être corrompu, défaillant?
L'attaque a été plus virulente encore pendant l'éloge funèbre. Au micro, une figure de la lutte pour les droits civiques, le révérend Al Sharpton.
On se bat contre la malfaisance en haut lieu. Le président a parlé d'appeler les militaires en renfort, mais il n'a pas eu un mot pour les 8 minutes et 46 secondes de ce meurtre policier. Le message transmis, c'est que si vous faites partie des forces de l'ordre, les lois ne s'appliquent pas à vous.
Un peu plus tôt, lors de cette cérémonie, c'est même l'adversaire de Donald Trump aux prochaines élections présidentielles, Joe Biden, qui a fait une apparition. Une vidéo enregistrée de 5 minutes pendant laquelle le candidat démocrate délivre, là encore, un message très politique.
On ne peut pas se dire qu'on va encore céder au racisme. L'heure de la justice raciale est venue.
Donald Trump, lui, n'a en revanche pas dit un seul mot, même sur Twitter, en lien avec ses funérailles.
Pour saluer la mémoire de George Floyd, quelques milliers de personnes se sont rassemblées hier soir à Paris. Mobilisation dans le calme, aussi à Mulhouse, Bordeaux, Grenoble, Metz. Quelques incidents à Dijon. Sauve une vie, tue un flic, à mort les porcs. Des tags appelant au meurtre de policiers découverts dans le Val-de-Marne. Une quinzaine inscrits dans les rues d'Ivry-sur-Seine. Pour le moment, pas d'interpellation. Une enquête est ouverte. C'était le 3 octobre dernier. Michael Harpon tuait 4 de ses collègues à la préfecture de police de Paris avant d'être abattu. Après 8 mois de travaux, la commission d'enquête parlementaire a livré ses conclusions. Benoît Ballet, elle pointe de graves défaillances sur le suivi de l'assaillant.
Oui, Michael Harpon n'aurait jamais dû être maintenu dans ce service. La conclusion du rapport est sans appel. Selon l'enquête parlementaire, des indices de radicalisation avaient été décelés mais pas signalés. Et Michael Harpon, qui s'était converti à l'islam, avait dit à ses collègues à propos de l'attentat de Charlie Hebdo, c'est bien fait. Depuis l'attaque, des procédures ont été mises en place. place par la préfecture de police pour que les signalements soient systématiques et ensuite évalués. La commission parlementaire préconise d'aller plus loin avec 35 propositions. La principale est déléguer le recrutement des renseignements à la préfecture de police, à la direction générale de la sécurité intérieure et aux renseignements internes des armées. Les rapporteurs du texte conseillent également d'étendre la portée des enquêtes administratives préalables au recrutement au personnel non habilité ou encore plus symboliquement d'instaurer une prestation de serment qui affirmera l'adhésion aux valeurs de la République pour l'ensemble des professions sensibles.
Benoît Ballet, merci. Le dernier bilan du coronavirus en France, 87 décès de plus en 24 heures dans les hôpitaux et les EHPAD. Le nombre de cas graves est repassé sous la barre des 1000. La situation sanitaire s'améliore donc encore un peu plus. Résultat, le gouvernement veut mettre fin à l'état d'urgence sanitaire au 10 juillet, avec la possibilité, si besoin, de réglementer l'accès aux transports, de limiter ou d'interdire certains rassemblements. Mais il n'y aura pas de reconfinement strict. Dans les restaurants d'Île-de-France, il y a ce nouvel espoir. Il pourrait rouvrir un peu plus tôt que le 22 juin. C'est ce qu'a laissé entendre hier soir sur France 24 Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État chargé du tourisme.
S'agissant des restaurateurs, moi il me semble que l'évolution des conditions sanitaires en Île-de-France et le recul progressif en tous les cas du virus devrait permettre, je l'espère, peut-être d'avancer de quelques jours la réouverture des restaurants dans leur ensemble. En tous les cas, ce sont des propositions que nous allons faire avec les professionnels pour que les instances interministérielles puissent, en tous les cas, se prononcer.
Les ventes de voitures repartent en nette hausse en France. Le ministre de l'économie parle même d'un retour à la normale ce mois-ci. Redressement spectaculaire que l'on doit aux primes mises en place par le gouvernement, selon Bruno Le Maire. Illustration à Caen, dans le Calvados. Nicolas Raupert avec Garance Munoz.
Après avoir réfléchi pendant tout le confinement, Mandy s'est finalement décidée.
Je vous laisse vous réinstaller à bord.
Donc boîte auto, du coup.
Elle bénéficie d'une prime de 7000 euros pour l'achat d'une voiture hybride, une aubaine pour cette mère de famille.
On est venu ici pour un véhicule thermique traditionnel et en fin de compte, avec les primes, on a pu faire une économie de quasiment de 20%.
À très bientôt pour la livraison. Des clients comme elle, Jean-Baptiste Lebon, concessionnaire automobile dans le Calvados, en voit passer une dizaine par jour. De quoi le rassurer après deux mois difficiles.
Quand on a repris début mai, on était très inquiets. On ne savait pas si on allait pouvoir garder tout le monde. Depuis l'annonce du gouvernement avec la prime à la conversion, ça nous rassure, c'est énorme. On a un trafic vraiment important. Les ventes sont vraiment dopées par cette prime.
Mais pour Jean-Luc Moreau, spécialiste auto RMC, cela ne suffira pas pour sauver la filière.
Il y a des grands cabinets internationaux qui ont tablé sur à peu près moins 20% de ventes de voitures. Donc ça ne va pas permettre de récupérer les deux mois et demi d'arrêt de production et de vente. Mais c'est un petit coup de boost pour le redémarrage et c'était vraiment nécessaire.
Il regrette cependant que les véhicules d'occasion soient très peu concernés par ces primes.
Le Conseil d'État relance le débat qui déchire le football français depuis plusieurs semaines. La saison de Ligue 1 ne reprendra pas et les relégations d'Amiens et Toulouse sont suspendues. La voie est donc ouverte pour un championnat à 22 équipes. La Ligue a maintenant l'obligation de se pencher sur le dossier, comme l'explique sur RMC son directeur général Didier Quillot.
Le Conseil d'État nous demande de réexaminer la question du format. Il ne nous dit pas quel est le format. Je rappelle que tous les pays d'Europe jouent avec une Ligue 1 au maximum à 20 clubs, que depuis 40 ans, la France joue avec une Ligue 1 à 20 clubs, et que cette question-là de la Ligue 1 à 22 ne s'est même jamais posée. On va néanmoins la reposer au Conseil d'administration en précisant donc les contraintes que cela pose par ailleurs.
Les courses, Mathieu, c'est à Chantilly.
Avec le pronostic de la Dream Team des courses RMC, favorite numéro 4, Cressida, outsider numéro 12, Noblesse d'Argent, le 4 et le 12.
Le jeu, je vous offre sur RMC et RMC Découverte un an de course, 500 euros tous les mois. Pendant un an, la valeur 6000 euros. Pour cela, vous répondez à la question que je vous pose. Quel réseau social Donald Trump menace-t-il de fermer? Un Twitter, deux Snapchat. Vous avez la bonne réponse, alors vous envoyez un pour Twitter et deux pour Snapchat par SMS au 732-16. Le gagnant ou la gagnante avec moi le 12 juin, vendredi, après-demain. Nous sommes le 10. Aujourd'hui, il est 7h39. Nous allons revenir sur ce qui se passe autour d'Adama Traoré, du moins de la famille d'Adama Traoré, Assa Traoré, qui demande maintenant à la garde des Sceaux de rouvrir, pas de rouvrir le dossier, mais d'aller plus loin, de s'immiscer dans le dossier. Ce qui est assez extravagant, puisqu'il y a une séparation des pouvoirs, on le sait. Et d'un autre côté, la garde des Sceaux qui souhaitait recevoir la famille d'Adama Traoré sur injonction du président de la République, ce qui fait hurler les magistrats, beaucoup de magistrats. Béatrice Brugère est avec nous, secrétaire générale du syndicat Unité Magistrats FO. Bonjour, merci d'être là. Oui, cette intervention d'Emmanuel Macron ne vous plaît pas?
C'est-à-dire que c'est pas qu'elle nous plaît pas, c'est qu'elle ne correspond pas à ce qui se fait normalement sur le plan institutionnel. Donc on est extrêmement heurté. C'est pas la première fois d'ailleurs que on a ce genre de démission du politique, mais nous sommes extrêmement choqués aussi, si vous voulez, que la garde des Sceaux se prête à ça, parce que dans notre pays, on estime que la justice, et j'espère que ça sera le cas encore, ne peut pas être l'otage soit de pression médiatique, soit de pression politique.
Alors, ce que je trouve absolument extravagant dans tout ça aussi, c'est que la garde des Sceaux était avec moi vendredi dernier, je lui ai posé la question, elle m'a dit, il n'est pas question pour moi de m'immiscer dans ce dossier, il y a séparation des pouvoirs. C'est ce qu'elle disait vendredi matin. Et puis, entre-temps, le président de la République a fait pression sur elle, si j'ai bien compris, et elle n'a pas résisté à la pression.
Je ne sais pas si elle n'a pas résisté à la pression, mais j'allais dire, peu importe, c'est pas notre problème à nous, les magistrats. J'allais dire, c'est le problème du gouvernement.
Oui, d'accord.
Nous, ce qui nous intéresse, si vous voulez, c'est que la justice puisse fonctionner de manière sereine et dans un cadre institutionnel qui n'appelle pas à une confusion. Or, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on est face à un emballement médiatique sur une affaire que l'on met souvent parfois en parallèle avec une autre affaire aux États-Unis dont on pourrait penser quand même que le parallèle est un petit peu rapide. Mais surtout, ce qui nous intéresse, les magistrats, si vous voulez, c'est que cette confusion ne crée pas une défiance et un soupçon sur les enquêtes en cours. C'est pour ça que l'indépendance de la justice est une garantie constitutionnelle dans notre pays, sur laquelle il faut absolument être inflexible. Et c'est le ministre de la Justice qui en est garante, et le président de la République. Or, c'est eux qui se font rappeler aujourd'hui à l'ordre par l'avocat des parties civiles et qui leur rappelle le code de procédure pénale. Donc c'est quand même assez paradoxal et il y a de quoi, j'allais dire, heurter. D'autant plus que, si vous voulez, on sort d'une séquence après le Covid qui a laissé quand même la justice en miettes, et les magistrats aujourd'hui sont déjà extrêmement tendus sur les procédures. On a eu des dysfonctionnements extrêmement importants sur le plan législatif, puisqu'on a eu des ordonnances qui ont été, si vous voulez, sanctionnées par la Cour de cassation, ordonnance faite par la ministre qui nous a obligés à remettre des personnes en liberté. Donc si on doit parler de dysfonctionnement, on peut en parler. Mais aujourd'hui, la justice est en miettes. Donc plus que jamais, on a besoin de sérénité et d'avoir des garanties sur l'indépendance.
Pas de pollution venue de l'extérieur. Je vais reparler de tout cela avec vous, Béatrice Brugère, dans deux minutes, parce qu'on va faire un peu de pub. Il est déjà 7h43. Vous êtes sur RMC, RMC Découverte.
RMC, 6h-9h.
Bourdin direct. Bien incité à recevoir la famille Traoré, la garde des Sceaux envoyait une invitation. Réponse de la famille Traoré: nous voulons des actes, pas des discussions dans un salon de thé de l'Élysée. En fait, c'était pas l'Élysée, c'était au ministère de la Justice. Mais dites-moi, c'est la famille Traoré qui dicte la loi dans ce pays?
Alors, j'espère que c'est pas la famille Traoré qui dicte la loi, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle rappelle, via son avocat en tout cas, parce qu'ils ont un très bon avocat, le minimum de la procédure. En effet, la séquence qui vient de se passer...
Elle demande des actes, la famille Traoré.
Oui, mais...
C'est-à-dire, elle demande à la garde des Sceaux, si je comprends bien, d'interpeller le procureur.
Oui, tout à fait. Alors, d'interpeller le procureur, peut-être, mais surtout de s'immiscer, si vous voulez, dans un dossier qui aujourd'hui est à l'instruction. Donc, on est avec des magistrats du siège qui sont indépendants, qui font une enquête où il y a des expertises, où il y a des possibilités d'appel, de demande d'acte. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils font, puisqu'il y a eu des contre-expertises, ce qui aussi est une explication de la durée de la procédure, mais pas que. Mais c'en est une, parce que l'instruction aujourd'hui, quand on demande des actes, c'est très long. C'est un autre problème problème aussi de la longueur de la justice. Oui. Si vous voulez, il y a des possibilités évidemment de faire avancer une enquête. Mais jamais le ministre, on n'a jamais vu ça, ne s'immisce comme ça en cours d'une enquête. C'est interdit de faire des instructions individuel. Oui. Et le problème depuis le début de ce mandat, c'est qu'on attendait une grande réforme sur l'indépendance de la justice pour les magistrats du parquet. Non seulement elle n'a pas eu lieu, mais en plus maintenant, on a une émission sur, oui. enfin une émission pardon sur les sur
c'est,
l'indépendance.
C'est l'affaire Leonarda.
Alors c'est même presque le degré au-dessus, parce que dans l'affaire Leonarda, c'était le président de la République, j'allais dire qui était déjà intervenu. Là, oui. on a le président de la République. Et le garde des Sceaux. Je oui. n'ai pas souvenir que le garde des Sceaux de l'époque...
Est-ce que Nicole Belloubet aurait pu dire non à Emmanuel Macron? Elle aurait dû le dire.
Oui, je pense
la
que...
La loi
Je pense que elle est garante...
En droit,
bien
oui.
sûr, elle est garante du bon fonctionnement de l'institution judiciaire. Et en effet, en tout cas, c'est une séquence qui est absolument incroyable qui est en train de se passer. Incroyable pourquoi? D'abord parce que c'est une confusion. Le soupçon existe sur cette enquête. Le fait de dire « je vais vous recevoir », ça veut dire qu'il y a un problème.
Sûr, je Donc, vais vous recevoir. Mais,
oui, bien sûr. Donc, de toute façon, maintenant, le soupçon est là. C'est quand même une pression qui dit pas son nom sur les enquêteurs et aujourd'hui sur les magistrats qui sont en charge du dossier. Parce qu'ils savent que ce dossier est sous les yeux, j'allais dire, de l'actualité, mais aussi du cabinet. Mais il faut quand même savoir que la ministre, si elle voulait informer le président de la République, qui a le droit de s'émouvoir hein, et d'essayer oui. de comprendre ce qui se passe, ça... Pour là-dessus, il n'y a aucun problème. Elle a la possibilité d'avoir des remontées d'informations via les parquets, via la chancellerie. Donc, elle était tout à fait en capacité de demander...
Oui, des remontées d'informations, ce n'est pas une intervention.
Pas du tout. Et c'est ce qu'on fait. Et d'ailleurs, c'est ce oui. qui se passe tout le temps. C'est-à-dire, pour savoir ce qui se passe dans un dossier et pour informer...
Oui,
puisqu'il y a
c'est
un
même
émoi,
logique.
Mais bien sûr, il y a oui. un émoi qui est extrêmement important dans l'opinion publique.
Oui.
Si on veut savoir ce qui se passe, il y a les remontées d'informations. Elle peut faire un point sur ces remontées d'informations. Elle
bien
peut
sûr.
Faire un communiqué de presse. Elle peut expliquer ce voilà, que tout fonctionne et qu'il n'y a pas à s'inquiéter, etc., etc. Donc, on ne peut pas dire qu'elle est démunie de ce côté-là et que l'information, elle n'est pas verrouillée, au contraire. Donc là, ce n'est pas du tout ça. Là, on est plutôt dans une séquence de démagogie, j'allais dire, et évidemment qui tourne au vinaigre, puisque c'est l'avocat et les partis qui disent « Mais non, mais ce que vous nous dites, c'est juste oui. pas possible. » Nous, ce qu'on veut, c'est que la justice fonctionne. Et ça, c'est un autre problème. C'est-à-dire que on aimerait que notre garde des Sceaux, en effet, fasse en sorte que la justice fonctionne, qu'on ait des moyens. On aimerait que le président de la République s'intéresse aussi aux moyens de la justice et pas qu'à l'affaire Traoré. Et peut-être que ça irait plus vite.
Merci Béatrice Brugère, secrétaire générale du syndicat Unité Magistrat FO. Il est 7h51, alors on n'en a pas fini avec l'affaire Traoré, on le sait, et la famille se fait entendre, évidemment, partout. L'autre jour, Assa Traoré est venue ici répondre à mes questions, elle appelle la famille à une grande manifestation le week-end prochain. La famille Traoré, Nicolas Poincaré, dont plusieurs fils sont actuellement en prison.
Oui, alors Jean-Jacques, il y a du boulot si vous voulez qu'on fasse le tour des casiers judiciaires de cette famille nombreuse. Il y a des affaires qui mettent en cause plusieurs frères en même temps. Il y a des faits de droit commun, des violences, des trafics de drogue, mais aussi des faits qui sont liés à la mort d'Adama Traoré et aux émeutes qui ont suivi.
Oui, alors entrons dans le détail. Qui est par exemple Bagui Traoré, celui qui a le plus lourd casier?
Alors c'est un demi-frère d'Adama. Il a presque le même âge que lui, 24 ans en 2016. C'est lui que les gendarmes étaient venu arrêter le jour de la mort d'Adama. Il était recherché pour une affaire d'extorsion de fonds sur une femme fragile qui était placée sous curatelle. Il avait plusieurs fois exigé qu'elle retire du liquide pour lui. Dans cette affaire, il a ensuite été jugé et condamné en avril 2018 à 2 ans et demi de prison ferme. Mais pendant qu'il était incarcéré à Fleury-Mérogis pour ses faits, il a été accusé de se livrer à du trafic de drogue depuis la prison avec un de ses frères qui gérait le business depuis l'extérieur. Ils ont été condamnés pour ce trafic à 1 an et 2 ans et demi de prison ferme.
Ce ne sont pas les faits les plus graves.
Non, parce que le jour de la mort de son frère, Bagui avait été arrêté par les gendarmes, on le sait, puis aussitôt relâché en raison de la mort d'Adama pour faire baisser la pression. Mais la pression n'avait pas baissé puisque des émeutes avaient aussitôt commencé le soir même à Beaumont-sur-Oise et elles avaient duré 5 jours, ou plutôt 5 nuits. Des émeutes particulièrement violentes puisque des tirs à balles réelles avaient été échangés. Les gendarmes avaient essuyé 60 tirs de carabine. Sainte-Soline. 13 d'entre eux avaient été légèrement blessés par des plombs. Bagui Traoré est accusé d'avoir participé à ces tirs. Il est mis en examen pour tentative de meurtre sur des agents de la force publique. Il va comparaître à l'automne prochain devant une cour d'assises. Ses avocats affirment qu'il n'y a aucune preuve contre lui et ils espèrent obtenir l'acquittement.
Oui, ce même garçon a aussi été condamné pour des violences en marge d'un conseil municipal à Beaumont-sur-Oise.
Alors ça, c'est un épisode qui en dit long sur le climat qui régnait dans cette ville de très grande banlieue parisienne. C'était 4 mois après la mort d'Adama. La maire de la ville avait reçu des menaces, notamment des frères Traoré, et le conseil municipal devait étudier la mise en place d'une protection pour l'élu. Deux des frères ont voulu assister à cette réunion où on allait parler d'eux. On leur a refusé l'entrée. Une bagarre a éclaté. Une policière a reçu un coup de poing dans la figure. Bagui et Issoufou Traoré ont été arrêtés. Mais leur arrestation a aussitôt provoqué une émeute dans la ville. Une dizaine de jeunes, dont un autre frère Traoré, ont arrêté un autobus. Ils ont molesté le chauffeur. Ils l'ont éjecté puis ils ont mis le feu à l'autobus. Bagui et Issoufou seront jugés dès le lendemain, condamnés à 8 mois et 3 mois de prison ferme pour le coup de poing à la policière en marge du conseil municipal. Et Yacouba, lui, sera jugé plus tard pour l'incendie du bus et condamné à 3 ans de prison ferme.
Un autre frère a aussi été condamné pour des violences.
Alors lui s'appelle Samba. Il y a 2 ans, son chien s'est bagarré avec un autre chien en bas de leur immeuble. Puis les maîtres du coup se sont disputés. Samba a asséné un violent coup de balai sur la tête du propriétaire de l'autre chien. Le balai et le crâne ont été brisés. Le propriétaire de cet autre chien a perdu connaissance et il va garder des séquelles. Samba Traoré a été condamné à 2 ans et demi de prison ferme. La victime a ensuite raconté que lorsqu'il était à l'hôpital, Assa Traoré, la sœur qui dirige aujourd'hui le comité La Vérité pour Adama, est venue le voir avec un ami et qu'ils lui ont proposé de l'argent pour qu'il retire sa plainte, ce qu'il n'a pas accepté.
Mais l'affaire la plus sordide concerne Adama Traoré lui-même.
Oui, peu de temps avant sa mort, Adama Traoré était incarcéré à la prison d'Ony, la maison d'arrêt du Val-d'Oise. Le 22 mai 2016, une femme s'est présentée au commissariat de Pontoise. J'ai lu hier le PV de son audition. Elle raconte que son fils Steven partage la cellule d'Adama Traoré, qu'il fait l'objet de sévices. Et finalement, en pleurs, il a avoué à sa mère avoir été violé par Adama. Sa mère a ensuite remué ciel et terre pour que son fils change de cellule, ce qu'elle a obtenu quelques jours plus tard. Adama a ensuite été libéré et il est mort avant d'avoir été poursuivi ou entendu sur ses accusations. Mais l'histoire n'est pas tout à fait terminée parce que 2 ans plus tard, ce même garçon est retrouvé par Yacouba Traoré, celui de l'incendie du bus. C'est une expédition punitive contre lui. Steven est embarqué dans une voiture puis tabassé avec une planche de bois. Pour ce garçon, c'est un peu la triple peine. 1, il était en prison. 2, il a été violé. 3, il s'est fait casser la gueule pour avoir osé dénoncer ce viol, alors qu'en vrai, il avait rien à dénoncer. C'est sa mère qui avait porté plainte. En tout cas, Yacouba Traoré a encore été condamné pour ces faits. Il se trouve aujourd'hui en prison.
Bon, les faits sont là. Il est bon de les rappeler. Ça ne change rien au fond de l'affaire Adama Traoré. On est bien d'accord.
Non. Qu'il soit délinquant ou pas, que ses frères soient des délinquants ou pas, la question demeure. Les gendarmes qui l'ont arrêté sont-ils, oui ou non, responsables de sa mort? On peut, à l'heure actuelle, toujours pas le dire, puisque l'instruction se poursuit. Ça fait très long, 4 ans
bien.
D'instruction.
Vous voulez dire un mot, non, Béatrice Brugère?
Oui, moi, je viens d'écouter avec beaucoup d'attention oui. Ce que vous venez de dire. Je me dis que, au vu de ces éléments qui n'échappent pas non plus à la chancellerie, évidemment, je trouve que c'est encore plus grave parce que il y a aussi de l'autre côté des gendarmes qui sont en attente aussi de la justice et de la vérité, et que prendre comme ça le parti de l'un me semble extrêmement dangereux sur le plan institutionnel.
Merci beaucoup, il est 7h57, vous êtes sur RMC, merci Mathieu.
À suivre, des manifestations, justement des appels au rassemblement pour rendre justice à Adama Traoré, pour honorer la mémoire de George Floyd. Et si ces manifestations relançaient l'épidémie de coronavirus, certains s'en inquiètent. Ont-ils raison de s'inquiéter? L'épidémiologiste Catherine Hill va nous rassurer après le journal de 8h sur RMC.
RMC.